Église en Mayenne. Nous continuons notre volet pèlerinage virtuel, aujourd'hui en compagnie de Dom Pierre-Antoine. Dom Pierre-Antoine, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le doyen du doyenné de Laval et vous avez proposé, alors non pas sur doyenné, mais en tout cas sur principalement les paroisses lavalloises, Saint-Pierre, Saint-Vénérand et puis Tac, Trinité, Avenir, Cordelier, un pèlerinage virtuel puisqu'on ne peut pas se déplacer aujourd'hui. Donc vous vous êtes dit, eh bien ce sont les chrétiens de Terre Sainte qui vont venir auprès des paroissiens.
Voilà, c'est ça. En effet, on s'est posé la question dans la récente période liturgique forte, comment on va nourrir par une démarche spirituelle forte et peut-être un petit peu inédite, parce que dans nos temps un petit peu ombrageux, mettre un peu de nouveauté, de fantaisie, c'était aussi important. Et donc on s'est proposé d'aller à la rencontre des témoins de Terre Sainte. Donc, appelons cela, si vous voulez, pèlerinage virtuel, même si le but n'était pas justement d'être dans le monde virtuel, mais de nous rapprocher de la réalité. La réalité de ce qu'est cette terre que nous aimons tant, là où beaucoup d'entre nous, peut-être, y sommes allés en pèlerinage, et où peut-être plus nombreux encore souhaitent y aller un jour, parce que tout chrétien, ma foi, s'il en a la possibilité, il faut le souhaiter, devrait se rendre physiquement là-bas. C'est une démarche extrêmement forte.
Alors, il y avait trois idées autour de cette idée de pèlerinage virtuel. La première, c'était investir les lieux par l'esprit, c'est-à-dire se mettre un petit peu à l'école ignatienne autour de la composition des lieux.
Oui, si on veut. Saint Ignace nous dit que quand on veut méditer la parole de Dieu, il était très concret, Saint Ignace, très méthodique. Il faut comme casser la distance du temps et de l'espace. Et la composition des lieux pour Saint Ignace, quand on lit un passage de l'Évangile, c'est user de la meilleure partie de notre imagination, pas celle qui est fantaisiste, qui va trop loin, qu'on n'arrive pas à maîtriser, mais celle qu'on va utiliser pour mieux être en présence de l'événement, pour deviner la scène. Par exemple, Jésus est assis, il est en train de parler à ses disciples. Quelle est la scène? Qu'est-ce que je vois? C'est une manière d'être plus proche du mystère, quelque part. Je sais que beaucoup de chrétiens, sans savoir qu'ils pourraient en cela être proches de la méthode ignatienne, ben font cela, on le fait assez naturellement. On s'en sent plus proche de cette humanité de Jésus. Voilà, le Fils de Dieu s'est incarné pour que nous rejoindre dans ce quotidien des scènes évangéliques. Donc effectivement, d'ailleurs, il n'était pas rare que le pape Jean-Paul II, le pape François a peut-être utilisé cette expression, disait « je suis en pèlerinage spirituel », c'est-à-dire qu'en ce moment, je suis, comme si on fermait les yeux, il était spirituellement, physiquement, dans un autre lieu, mais spirituellement avec les pèlerins, avec les gens avec qui ils voulaient être unis. Donc voilà, ça c'est la première dimension, en effet, d'aider nos fidèles et nous-mêmes, à travers le témoignage de ceux qui vivent sur place, eh bien, à mieux comprendre, deviner, imaginer ces lieux où Jésus a vécu, est mort et ressuscité.
Et c'est en ça que les paroissiens ont pu bénéficier de différentes conférences,
oui,
parmi lesquelles une présentation de la Palestine, de la Terre Sainte, avant le Christ, pendant et aujourd'hui.
C'est ça. On a choisi, on parlait de l'espace à l'instant, c'est aussi la distance du temps parfois qu'il faut rompre pour s'enraciner dans notre foi. Abraham, c'est très loin. En fait, quand on est en Terre Sainte, c'est beaucoup plus proche. Et puis quand on comprend l'enchaînement que nous n'aurions pas deviné, qui était le mystère de la volonté de Dieu, l'enchaînement des événements dans l'histoire sainte, je dirais que ça nous rapproche du Seigneur, ça nous fait mieux comprendre ses intentions. Et donc on a choisi ce parcours historique de l'Ancien Testament. On a voulu s'arrêter à Bethléem avec une sœur qui tient aujourd'hui un orphelinat et qui marque l'esprit même de Bethléem, de l'avènement de Jésus. Et puis, bien, toute l'ère de la Nouvelle Alliance, si on veut, avec jusqu'aux éléments historiques qui font la Palestine d'aujourd'hui, l'État d'Israël, parce que c'est vrai que c'est assez complexe. Mais comprendre cet enchaînement, deviner les traces archéologiques de tout cela, eh bien, ça permet aussi peut-être de resituer même la progression de la foi de nos frères et sœurs chrétiens aînés, comprendre comment leur foi s'est enracinée dans le témoignage des premiers apôtres, et puis si ce n'est évolué, c'est désenveloppé, c'est mieux comprise au fil des années, parfois avec des accents, des tonalités qui ne seraient pas les nôtres aujourd'hui, mais il faut le respecter. Je donne un exemple. Il y a une époque où on était extrêmement dévot aux reliques, mais on ne peut pas comprendre cette dévotion sans comprendre cette histoire qui a fait que, par exemple, à l'origine, on voulait toucher Jésus. Saint Jean dit, celui que nous avons vu de nos yeux, touché de nos mains, nous vous l'annonçons. Il fallait toucher celui qui a touché, celui qui a touché Jésus. Et l'origine de cette dévotion des reliques, elle vient de là, avec peut-être les excès du temps, clairement, peut-être des éléments historiques, jusqu'à faire que si on possédait la relique de Saint-Luc, de Saint-Marc, on était une ville puissante, etc. Pas de problème là-dessus. Mais beaucoup d'aspects de la spiritualité, de la piété, et même du dogme de la foi catholique, ne peut pas se comprendre sans ce désenveloppement de la foi au fil des années.
Et à vous écouter, je pense à Clémence Pigano que j'avais la semaine dernière, qui disait que le Vendredi Saint était fêté encore autrement avec l'exposition d'un gisant représentant le Christ,
oui.
Et expliquant que les morts étaient découverts, hein, et que le cercueil était recouvert vraiment à la fin, mais que durant tout le temps de la sépulture, le cercueil restait ouvert pour que tout le monde puisse encore être en lien avec le mort. Hein.
Tout à fait, et tous les rites d'ailleurs, je pense d'ailleurs à ce sujet, je suis très marqué par ça, que les rites funéraires sont souvent l'expression, si ce n'est la plus accomplie, du moins très significative de la culture, de ce qu'on a reçu. Parce que devant la mort, on ne peut pas tricher, donc je dirais, on enterre les morts avec ce qu'on a de meilleur. Et en y mettant les signes de ce qui nous anime le plus. Voilà pourquoi la célébration de la mort du Vendredi Saint tient une place très importante dans la foi chrétienne. Même si elle est paradoxalement aliturgique, mais justement pour mimer la dramaturgie, quelque part, de la mort du Christ. Et on retrouve ça aussi dans le soin des funérailles chrétiennes, qui n'est pas une dramaturgie, mais qui est une signification liturgique très forte. Et voilà pourquoi je pense que c'est un trésor, par exemple, dans notre pastoral de l'accompagnement du deuil à garder au plus haut point, parce que c'est l'expression aussi d'une civilisation marquée par l'espérance de la vie éternelle.
Oh,
Donc investir les lieux par esprit, parce qu'aujourd'hui on est un peu empêché, c'était notre premier point. La deuxième chose va se situer davantage autour de l'archéologie des lieux.
Oui, on pourrait dire ceci. Beaucoup des intervenants qui nous ont aidés à connaître la Terre Sainte nous ont fait part de la connaissance de plus en plus précise grâce à l'archéologie. Alors, leur explication n'était pas complexe, ne visait pas à nous rendre des grands savants de l'archéologie, mais simplement à prendre conscience aujourd'hui, dans les différentes couches de l'histoire qui ont marqué les lieux saints, d'une tradition qui nous est donnée. Et à cet égard, pour ceux qui l'ont entendu, la conférence de Madame Beaulieu, qui connaît très bien l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, était très significative, un peu semblable, pour ceux qui connaissent, à ces fouilles, à ces scavi de la basilique Saint-Pierre à Rome, où on découvre qu'au fil des siècles, les constructions successives, un peu comme les poupées
Les
russes,
poussins.
successivement, c'est très complexe, ça donne à 15 siècles, 20 siècles après. Tout un amas de murs, de constructions, de
Oui, il y a des
mausolées, de
superpositions comme ça.
superposés. Voilà, superposés. Puis on se dit, mais au fond, pourquoi ici, quoi? Pourquoi on aurait pu construire ailleurs, mais on a absolument voulu construire ici? Et on se rend compte aujourd'hui, grâce aux bonnes méthodes
De
actuelles, que
carbone et
ce lieu
autres.
était important. Et d'ailleurs, pour ce qui est du Saint-Sépulcre, ça nous renvoie à Sainte-Hélène, l'archéologue, la mère de Constantin, au début du IVe siècle, puisque c'est elle qui a demandé à son fils empereur d'aller à Jérusalem, de redécouvrir le lieu du Golgotha, de la croix du Christ. Et donc, et c'est là, alors que c'était beaucoup plus simple de construire ailleurs, c'est là que la basilique constantinienne, justement, a été construite. Et cet attachement au lieu, en fait, l'archéologie des lieux nous fait faire une archéologie spirituelle. On dit que quand on déménage physiquement, il y a aussi un déménagement spirituel. Et bien, quand on va à la source d'un événement dans le temps et dans l'espace, c'est aussi nous-mêmes qui allons à la source de sa signification. Et ça, je pense que l'archéologie, quand elle est bien menée, elle est vraiment un enracinement spirituel fécond.
Et ensuite, il y a cette question, je ne vais pas dire qui est centrale, mais qui est quand même très importante, c'est la question de la communion ecclésiale, c'est-à-dire que la situation des chrétiens en Orient, alors là, on était sur la Terre Sainte principalement, elle est quand même préoccupante. Beaucoup s'en vont aujourd'hui, ne résistent plus à la situation politique qu'ils vivent. Et s'associer à eux durant ce temps de carême, c'est aussi tenir compte d'eux, c'est les associer à nos prières. C'est,
bien sûr. La joie que tous nos conférenciers, soit palestiniens de naissance, soit français, mais très attachés à la Palestine depuis plus de 20 ans pour tous, la joie qu'ils ont eue à nous parler, même à distance, est assez significative du besoin qu'ils ont d'être soutenus et en relation avec les chrétiens d'Occident, pour eux. Nous, ce sont les chrétiens d'Orient, mais pour eux, nous sommes les chrétiens d'Occident. Et ils nous sentent parfois loin. Ils nous savent parfois sachons-nous provoquer, assez ignorants de ce qu'ils vivent vraiment. Et parfois, les guides chrétiens locaux rappellent que, par exemple, que eux, ils sont quelque part les descendants des plus proches de Jésus. Ils vont rappeler, par exemple, que s'ils parlent arabe, que l'arabe n'est pas d'abord la langue des musulmans, c'était d'abord la langue des chrétiens. Ils vont, purifier un petit peu certaines images que nous pouvons avoir quand nous regardons la réalité de loin. Et même si cette réalité, aujourd'hui, elle est extrêmement complexe pour eux, que les chrétiens ont du mal à trouver leur place, que beaucoup partent, c'est vrai du Liban, par exemple, hein, la Terre Sainte, la Terre Promise, bien c'est aussi le Liban. Et c'est un grand drame, c'est ce départ des chrétiens qui, localement, politiquement, là-bas, sont toujours source d'équilibre, y compris entre musulmans. Quand la communauté chrétienne est présente, même en minorité, elle maintient un équilibre entre les différentes minorités.
Elle agit comme tiers. Hein.
C'est ça. Et puis parce qu'elle est sensible à l'universalité. Elle est une minorité qui va tendre à ne jamais être croquevillée, mais à tisser des liens. C'est très vrai au Liban, me semble-t-il. En tout cas, les Palestiniens en témoignent même. Mais aujourd'hui, la situation est clairement tendue. Et les pèlerins occidentaux peuvent être surpris en arrivant sur place, au final, de voir très peu de chrétiens. Il y en a dans les lieux saints. Mais en réalité, il y a très peu de chrétiens aujourd'hui en Terre Sainte. Voilà. Mais c'était intéressant justement de vivre pendant le temps du carême, disons les choses, en communion fraternelle avec ceux qui sont disciples de Jésus et qui, parfois, on se plaint, nous, en Occident, d'avoir nos complexités. Mon Dieu, sur place là-bas, voir les leurs nous guérit parfois des nôtres.
Alors donc, il y avait cette communion et cette dimension, ce désir en fait d'être d'une proximité oui. vis-à-vis de leur quotidien. Une sœur, sœur Lodi Fares, qui tient l'orphelinat de Bethléem, avait un beau témoignage à apporter à la fois sur le rayonnement, malgré le petit nombre, des chrétiens auprès des populations locales. Et puis, j'allais dire, d'un point de vue spirituel, les fruits que porte cet orphelinat.
Oui, alors c'est vrai que chaque intervenant a apporté à sa manière un témoignage très, très fort. Sœur Lodi, en effet, nous a parlé de cet orphelinat à Bethléem. Ses disciples de Saint Vincent de Paul, ses sœurs font un travail assez inouï. C'est un peu la charité à l'état pur. Gratuite, tellement gratuite qu'elle est crucifiante, puisque les enfants dont elle s'occupe ne peuvent pas forcément les garder longtemps. Elles sont inquiètes de savoir où elles vont pouvoir continuer leur scolarité, par qui elles vont être accueillies. Elles ne peuvent rien dire à ce sujet. Donc elles accueillent les nourrissons, les nouveau-nés, et leur offrent l'amour pour le temps qu'il leur est donné. Donc c'est assez, oui, les chrétiens sur place, bien pour beaucoup, œuvre à faire le bien. Certains, clairement, on en a rencontré aussi, sont un petit peu découragés, hein, disons les choses. Mais cette œuvre, parmi d'autres locales, elle est vraiment prophétique, en sens que, voilà, visiter un orphelinat à quelques centaines de mètres de la basilique de la Nativité, qui fait mémoire d'une naissance où comment dirais-je, des parents et un enfant n'ont pas été accueillis. Voilà, eh bien c'est un orphelinat, c'est ça. C'est accueillir un enfant qui était en péril. Eh bien c'est la crèche des temps modernes, cet orphelinat. C'est un lieu d'ailleurs qui laisse vraiment bouleverser les pèlerins qui y sont accueillis.
Et qui donne une idée aussi de quelle façon les chrétiens s'insèrent
Oui.
au milieu des communautés locales.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une situation un petit peu, on va dire, d'une détresse extrême dont ils en sont là. Mais alors, si on va à Bethléem aussi, on va rencontrer, quand on est en pèlerinage, on peut aller rencontrer des communautés de chrétiens sur place qui nous expliquent un petit peu quel type de relation ils ont avec les différentes confessions, selon des, comment dirais-je, des critères qui sont très différents des nôtres en Occident, des schémas qui sont très différents. Donc c'est là aussi qu'on voit comment ils sont insérés dans la société, ce dont ils sont privés, ce qui est difficile pour eux, et puis le bien qu'ils peuvent faire, ouais.
Bon, alors, maintenant l'après. La question que nous n'avions pas préparée.
Ouais.
L'après, parce que j'ose espérer que ce type d'initiative suscite le désir chez certaines personnes d'aller en savoir plus. Et peut-être que la paroisse, lorsque nous serons libérés de ce fichu Covid, pourra nous proposer quelques pèlerinages.
Ben, oui, je suis sûr que ben, le service diocésain de pèlerinage et beaucoup d'autres services diocésains de pèlerinage le dotent comme les autres, comme pas mal de prêtres. On va se poser la question après ce temps de manière raisonnable, quelle est démarche on va faire pour respirer notre vie chrétienne. Alors, ça ne veut pas forcément dire organiser et faire tout un tas de choses sans trop vite. Par exemple, avant d'aller en Terre Sainte, nous, on a le vœu d'aller à Pontmain, en paroisse déjà plus proche, plus facile. Et c'est une dette qu'on a vis-à-vis de celle dont on fête le jubilé de l'apparition. Et puis, ben voilà, c'est vrai qu'on a prévu un pèlerinage en Terre Sainte pour la paroisse en 2022 et qu'il y avait un élément pédagogique un petit peu dans dans le choix de faire ces conférences virtuelles, c'est d'en donner un petit peu le goût. Parce que en visio, à distance, comme on dit, on le mesure tous en ce moment, c'est quand même différent que de le faire en présence. Donc on espère en effet pouvoir le faire dans un an, en février 2022.
Très bien. Eh bien, Don Pierre-Antoine, merci beaucoup.
Merci beaucoup de votre écoute.
Et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.
Au revoir, bonne semaine à vous.